Elisabeth Lestrène, vous êtes notre invitée aujourd'hui pour Point de repère hors piste. Dans le cadre d'une thèse présentée à l'université de Leeds, vous avez publié en anglais un ouvrage, j'en traduis le titre, « La Sainte Maternité, genre, dynastie et culture visuelle à la fin du Moyen-Âge ». On en parle depuis le début de cette émission. On a bien situé le contexte à la fois méthodologique de votre recherche et le contexte historique et votre objectif, en tous les cas ce qui est devenu votre objectif à force d'observer et ces images et ces tableaux et ces mœurs et ces rituels de l'époque. Et maintenant, venons-en vraiment à votre découverte, si je peux dire, à vos découvertes. Comment voyez-vous, notamment, allez, je vais dire dans la période après l'accouchement, où voyez-vous un bouleversement, un changement des rapports de force dans cette époque 15e-16e siècle qui est dominée par un patriarcat?
Mais j'ai beaucoup étudié des rites et des cérémonies qui suivaient l'accouchement, qui appartenaient à l'accouchement. Et on peut dire que même si les femmes étaient obligées de, plus ou moins, les femmes mariées, disons, laïques, étaient obligées de donner naissance à un héritier, que la période de l'accouchement et la période qui suivait, donc les quatre semaines, disons, ça dépend de la famille, mais plus ou moins le mois qui suivait l'accouchement, c'était une période où la femme était privilégiée dans la famille.
Alors, qu'est-ce qu'elle était censée faire à ce moment-là, la femme?
Et donc, en fait, elle n'était censée de rien faire du tout, quoi. Donc.
Ce qui était rare, en fait.
Oui, et donc, si on pense aux familles, pas aristocratiques, mais plutôt bourgeois ou même plus pauvres que ça, où la femme avait quand même des tâches à faire à la maison.
Absolument.
Pendant la période qui suivait l'accouchement, elle était censée rester dans son lit et de se reposer. Et donc, c'était pendant cette période-là qu'on voit un bouleversement des rôles sexués dans la maison. Parce que pendant la période après l'accouchement, on cherchait la nourriture très très saine pour donner à la femme pour qu'elle puisse se restaurer. On donnait le temps de se coucher dans son lit pour reprendre ses forces. Et puis petit par petit, elle reprenait sa vie normale, disons, après. Et pendant ce temps de période où elle était à la maison, elle recevait des visiteurs à la maison, les gens qui apportent des petits trucs à manger ou des petits cadeaux. Et donc, elle était la personne la plus importante de la maison, avec évidemment le petit, s'il survivait.
Bien sûr, vous parlez d'un article ou d'un ouvrage, Woman on Top, hein,
oui.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la femme vers laquelle tous les regards,
exactement,
toutes les attentions convergent. En fait.
Oui. Et souvent, on voit aussi un changement dans la maison même. Ça dépend de la maison, évidemment, mais par exemple, disons, une petite maison, on devrait peut-être mettre le lit dans la chambre, la pièce la plus grande de la maison. Donc, il y a tout un bouleversement au niveau de la maison même. Et donc, il y a le mari qui ne se retrouve pas plus sa place dans cette famille. Donc, parce qu'il est éloigné, parce que, comme j'ai dit, dans les images, on ne voit que des femmes qui sont là pour l'accoucher. Et l'homme, il est un peu éloigné de tout ça. Donc, voilà.
Et ça change un peu. D'ailleurs, vous signalez dans votre ouvrage que parfois, on a des traces de certains hommes qui se plaignent un petit peu de cela,
oui,
d'être éloignés. Ils ne sont plus maîtres chez eux.
Ils doivent aller chercher à manger parce qu'il y a des tas de femmes qui viennent à la maison. Ça, c'est plutôt dans des journaux du 16e. On a moins d'évidence pour le 15e. Mais on peut supposer que c'était aussi le cas au 15e aussi.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant cette période qui suit l'accouchement, les femmes n'ont plus de relations sexuelles.
Non.
Et en fait, là, on voit bien qu'on sort d'un rôle où la femme serait en fait réduite à son rôle relation sexuelle, c'est-à-dire avoir des enfants, ouais, et donc la dynastie. Là, juste d'une certaine manière, le fait de donner la vie les extrait de ce rôle purement sexuel.
Oui. C'est un bouleversement aussi des règles, si vous voulez, du mariage, en fait. Et comme c'est intéressant de penser aussi au rite suivante, qui est la messe de relevail.
On allait en parler, oui.
Donc là, c'est une cérémonie où on réintègre la femme dans la vie de la famille. Donc elle est de nouveau permise d'aller dans le lit de son mari. Mais c'est aussi une messe qui célèbre, d'une certaine façon, le fait qu'elle a survécu un accouchement qui peut être, on peut imaginer à l'époque, pas évident. Donc,
dans cette cérémonie, un certain nombre de commentateurs ont pu voir la marque justement de l'oppression que subissaient les femmes.
De la purification.
Parce que voilà, c'est une cérémonie qui est censée les purifier. Alors évidemment, à nos yeux de modernes, pourquoi la purifier la femme? Elle vient d'accoucher. C'est une version machiste, complètement masculine de la femme. C'est encore la réduire à un rôle impur en quelque sorte. Mais vous voyez aussi dans cette cérémonie la reconnaissance de l'épreuve qu'elle vient de traverser.
Oui, exactement. Et donc c'est la seule. Il y avait un autre écrivain qui a remarqué ça, dont je m'en servis de ces travaux, mais que c'est pas vraiment une messe en fait, mais on dit que la cérémonie des relevailles, que c'est la seule cérémonie faite par l'Église pour une femme, toute seule. Donc et dans cette cérémonie-là, elle entre dans l'Église, elle est accueillie par le prêtre, elle va dans l'espace le plus sacré de l'Église, toute seule, donc elle n'est pas accompagnée par son père pour le mariage ou par son mari ou bien... Donc c'est vraiment pour elle-même. Et donc on peut dire que pour les femmes qui participaient dans ce genre de cérémonie, est-ce que ces femmes-là voyaient ça comme une purification ou plutôt comme une célébration? Alors, en fait, le plus qu'on va plus loin dans les siècles, et là ça devient plutôt une célébration qu'une purification, ça c'est clair. Mais au 15e, on peut aussi dire que voilà, c'était une façon de fêter. Parce qu'on avait aussi un repas après, et puis des gens sont invités. Voilà, de célébrer le fait qu'elle a survécu et que peut-être aussi l'enfant a survécu. Et on va la réintégrer dans sa vie normale, qui veut dire qu'elle va reprendre ses relations sexuelles avec son mari, mais aussi qu'elle a bien survécu son...
Il y a à la fois une reconnaissance de cette épreuve, et il y a un moment, en fait, où ces femmes vivent une forme d'autonomie, en fait.
Oui.
C'est ça. Et on parlait justement de relations sexuelles. En fait, non seulement dans le cadre de cette cérémonie, dans cette messe de relevailles, appelons-la comme ça, la femme, comme vous le dites, s'avance seule, donc elle n'est plus entourée, elle n'est plus soumise à un moment, elle est reconnue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait et pour ce qu'elle va sans doute encore faire par la suite. Mais c'est aussi une des rares cérémonies où elle est honorée, si
oui,
on peut dire ça, en tant que femme qui a eu des relations sexuelles. Ce n'est plus la Vierge qui est mise en avant.
Mais en fait, elle suit l'exemple de la Vierge quand même. Et donc on a la période qui suit l'accouchement, puis qui est prolongée, si vous voulez, dans la messe des relevailles. Et elle imite, si vous voulez, la Vierge Marie qui est venue au temple pour remercier Dieu ou pour se purifier, ça dépend de la vie des gens, pour la naissance du Christ.
Absolument. Alors on va justement revenir sur ces différentes figures religieuses, parce que c'est clair que s'il y a la Vierge Marie, il y a aussi la mère de la Vierge, Satan, qui va jouer un rôle, parce que là on va voir que cette reconnaissance de la femme en tant que mère va aussi être utilisée, notamment dans le cadre de relations mère-fille. Vous allez nous expliquer ça, mais ce sera après une troisième pause musicale. À tout de suite, Elisabeth Lestrange.